RCF.
Nous partons cette semaine au cœur du Moyen-Âge en la personne de Maître Eckhart, ce dominicain qui n'a pas eu peur de parler à tous, et en particulier aux femmes, de dire la théologie en langue allemande et non pas seulement en latin, d'être à la fois maître et pourtant réduit à rien. Réduit à rien, justement, c'est le titre du livre écrit par le frère Rémi Valégeau, avec nous aujourd'hui. Bonjour frère Rémi.
Bonjour Madeleine.
Alors frère Rémi, vous êtes dominicain au couvent de Lille, vous venez d'écrire Réduit à rien, les derniers jours de Maître Eckhart aux éditions du Cerf, et on va en écouter un extrait lu par Frédéric Folcher.
Maître Eckhart est un Lesemeister, un maître des Écritures. Que rien n'entrave sur les chemins de la connaissance du mystère divin. Là même où Jésus demeure, l'exégète du Père, lui, l'unique pèlerin de la patrie céleste, quand, en l'absence de toute clarté, l'homme s'engage dans la plus totale obscurité. Sur ce chemin d'Emmaüs, frère Eckhart est un Lebmeister, un maître de vie, qui jamais n'oublie que notre pèlerinage en ce monde est d'emblée une pérégrination d'humanité où le Fils de l'homme, éprouvé en toute chose d'une manière semblable, à l'exception du péché, conduit tout homme à naître en vérité. Dans un monde où l'homme ne cesse de travailler à fonder, échafauder et bâtir, tentant vainement de consolider ce qu'il peine à construire et s'appliquant sans cesse à restaurer ce que le temps détruit, naître au gré d'un travail d'enfantement est la seule œuvre qui soit un gage d'éternité. À celui qui me demanderait « Pourquoi prions-nous ? Pourquoi accomplissons-nous toutes nos œuvres ? Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?» Ce qui fut le plus sublime, je dirais, pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. C'est pour cela que toute l'Écriture est écrite. C'est pour cela que Dieu a créé le monde et toute la nature angélique, afin que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu.
Alors ce roman, c'est une enquête mystique sur ce dernier voyage qui mène le dominicain, le frère prêcheur, Maître Eckhart vers son procès, un procès pour hérésie, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes pour un dominicain, on y reviendra. Comment est-ce qu'on peut être à la fois un maître et réduit à rien, frère Rémi ?
Maître Eckhart, c'est l'autorité théologique par excellence, l'équivalent de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Il enseigne deux fois à l'université de Paris et il va être accusé d'hérésie. Dénoncé d'ailleurs par deux frères de son couvent, ce qui n'est pas banal. Et lui, qui est l'autorité théologique par excellence, devient rien, comme toute personne à son procès est réduite à rien. Or, ce qui me touche beaucoup, c'est que être réduit à rien, on peut l'être du jour au lendemain dans notre société d'aujourd'hui, soit par le chômage, soit par la maladie, soit pour différentes circonstances. Or, la parole de Maître Eckhart, de celui qui fut en son temps un maître de vie, manifeste effectivement ce qu'il permet d'affronter ces situations et de rester un vivant, quoique apparemment, socialement, réduit à rien. Et je trouve là la parole de Maître Eckhart un enseignement pour nous aujourd'hui dans une société, dans des situations que nous rencontrons aujourd'hui où du jour au lendemain, tout peut nous échapper, tout peut nous abandonner et où on ne peut plus s'appuyer sur quoi que ce soit et que l'on se trouve dès lors réduit à rien. Et pour moi, cet épisode de la vie de Maître Eckhart, particulièrement dur pour cet homme, est un exemple de vie pour tout un chacun.
On suit dans ce roman l'histoire de Maître Eckhart, en tout cas ces derniers jours. Ça nous emmène littéralement sur les pas enfoncés parfois dans la neige, les pas de Maître Eckhart à travers l'Europe, d'Erfurt à Avignon en passant par Paris. C'est une véritable pérégrination.
Une véritable pérégrination. Pour rappel, Maître Eckhart est rentré comme dominicain à la fin du XIIIe siècle à Erfurt, en Allemagne. Il a fait ses études de théologie à Cologne, puis à Paris, qui est la grande université du XIIIe siècle. Et puis, notre ouvrage, Réduit à rien, se passe essentiellement entre Cologne et Avignon. À Cologne, où il a été accusé d'hérésie par deux frères de son couvent. et jusqu'en Avignon où il plaide sa cause auprès du pape Jean XXII alors que l'archevêque de Cologne tente à prolonger le procès. Et ce qui me touche beaucoup, c'est de trouver effectivement beaucoup d'humanité dans ce propos de Maître Eckhart, dans sa prédication, qui n'est pas seulement une parole sur les cimes de la déité inaccessible, c'est une parole en revanche très terre-à-terre, sachant que le Mitterlodjotsch est une langue très matérielle, très terrienne. Et cette pérégrination nous permet de suivre un homme dans sa parole, sa prédication certes, mais aussi dans son humanité.
Et ce rapport à la vie, est-ce que c'est ce qui permet de dire que c'est un maître de vie justement ?
Exactement. Maître Eckhart a été reconnu comme un maître des Écritures. Donc magister, c'est le maître par excellence qui a autorité, et il a été reconnu maître des Écritures, celui qui commente les Écritures saintes et les auteurs dits d'autorité comme Augustin, Chrysostome et ses prédécesseurs scolastiques. Ça, c'est à l'université. Mais au milieu du peuple, au milieu donc des laïcs, auprès des moniales et de celles qu'on appelle les béguines, des femmes qui vivent de la cité, des œuvres de la charité, mais qui offrent beaucoup de spiritualité à leurs contemporains, Maître Eckhart a été reconnu comme un maître de vie. Celui qui sait parler au cœur des gens, celui qui sait parler avec attention à ce que vivent les gens, c'est effectivement une parole qui permet donc d'être rejoint dans son intimité, et c'est à ce titre-là que Maître Eckhart a été reconnu comme maître de vie.
Alors vous parliez justement des béguines, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ces femmes qui vivaient ensemble, qui ne renonçaient pas à leur bien propre, il n'y avait pas d'hiérarchie, pas de vœux perpétuels, et ces femmes, elles dérangent, et c'est justement à elles que Maître Eckhart va s'adresser, notamment avec l'idée qu'il doit à la fois encourager la dévotion auprès d'elles, mais aussi en prévenir les déviations.
Exactement. Les béguines, on les connaît donc dans notre imaginaire, les béguines, le béguinage, c'est Bruges, Gand, les Flandres, mais il y avait tout autant de béguines dans la vallée rhénane, dans une ville comme Strasbourg, 10 000 habitants au XIVe siècle, il n'y a pas moins de 1000 béguines et moniales, ce qui est tout à fait stupéfiant, hein, mais c'est la même chose à Cologne, c'est la même chose à Bâle. Et ces femmes qui offrent les services de la charité, à savoir l'accompagnement des malades, la prière pour les mourants ou l'aumône aux nécessiteux, ont une vie spirituelle intense. Ce ne sont pas des moniales, elles ne vivent pas en communauté avec vœux d'obéissance, elles vivent en petite unité de vie, comme on dirait aujourd'hui, sans avoir de supérieur, et elles sont très libres. Puisqu'elles n'ont pas de supérieur, elles peuvent être béguines un temps et arrêter d'être béguines. Et puis, très libres, elles vivent une vie de spiritualité nourrie avec les plus grandes autorités de leur temps, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Et cette spiritualité interroge les évêques qui n'ont pas prise sur ces femmes, puisqu'elles ne font pas vœu d'obéissance, dans un temps où, dans la région, notamment en Allemagne, il y a une secte dite du libre-esprit qui a des déviations hétérodoxes. Et donc, on s'interroge sur l'authenticité de la doctrine spirituelle de ces femmes, et on demande à Maître Eckhart de les accompagner. Et là où on attendrait un redresseur de tort, une sorte d'inquisiteur, emploi que Maître Eckhart n'a jamais eu, on découvre un maître de vie qui se met à l'écoute de ces femmes, qui prêche à ces femmes dans leur propre langue, en Mitterlodjotsch, abandonnant le latin, et qui emprunte à ces femmes leur mode d'expression. Et Maître Eckhart, qui a l'oreille pour cette spiritualité, avait eu l'oreille d'une certaine Marguerite Porrette. Marguerite Porrette était une béguine à Valenciennes qui a eu, hélas, un procès en inquisition, et Maître Eckhart a eu accès d'une manière ou d'une autre aux écrits de Marguerite Porrette, et on trouve aujourd'hui une connivence tout à fait étonnante entre la pensée de Maître Eckhart et celle de Marguerite. Et donc, averti de cette pensée de Marguerite, Maître Eckhart a eu l'oreille pour ces femmes béguines de la vallée rhénane et a su leur parler comme il convenait.
Alors on sait qu'après, il y aura une des décisions du Concile de Vienne qui va consister précisément à les condamner, à les exclure de l'Église parce que on dira qu'elles mettent en péril les âmes. Ça, c'est les termes de la bulle du Concile de Vienne.
Oui, effectivement, le Concile de Vienne en 1311 a quelques prévenances à l'égard des béguines, et Maître Eckhart dans la foulée donc est averti. Mais c'est trouver chez elle effectivement un fond de vérité qui l'accompagne et dont il est lui-même l'héritier. Pendant près de 10 ans à Strasbourg, il va prêcher pour ses femmes en reprenant la parole de ses femmes, à contrario effectivement de ce qu'évoque le Concile de Vienne. Et ce nage-là ne lui a jamais été reproché, jamais reproché. En revanche, ça lui a valu le titre de maître de vie. En revanche, des frères non avertis à Cologne, quelques années plus tard, vont le montrer du doigt sur sa manière de s'exprimer et l'accuser d'hérésie.
Quand on vous écoute parler de Maître Eckhart, on sent toute cette puissance spirituelle, c'est un maître. Et pourtant, réduit à rien, il est interdit, il est réduit au silence. Les textes qui lui sont opposés durant le procès sont des articles démembrés qui sont un scandale pour l'esprit, c'est ce qu'on trouve dans votre roman. Vous évoquez aussi cet homme décharné, sans vie, sans force, jeté sur sa paillasse, esselé, sans secours. C'est ça, Maître Eckhart, réduit à rien.
Effectivement, c'est un homme d'une 60aine d'années, bouleversé par ce procès qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre d'ailleurs comment deux frères de son couvent l'ont ainsi accusé d'hérésie, et qui ne comprend pas qu'on puisse le prendre à contrario de ce qu'il dit. Il est vrai que faire passer les concepts de latin à la langue très imagée du Mittelhochdeutsch, le moyen haut allemand, est périlleux. Et Maître Eckhart reconnaît humblement, effectivement, que cela a pu gauchir ce que l'on peut dire à ce qu'on appelle l'école, l'université. Mais au-delà de cette humble confession de maladresse, en revanche, il tient au fond de sa pensée, mais il est complètement désarçonné. Il est socialement mis à mort, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là qu'il est réduit à rien. C'est un homme fatigué qui doit traverser les routes du Rhin, du Rhône, pour aller de Cologne jusqu'à Avignon. Il faut imaginer ce voyage. Et puis c'est un homme laminé par la stigmatisation à son égard, mais néanmoins qui a une force de vie intérieure parce qu'il a rencontré le fond vivant de Dieu, celui qu'il désigne dans sa prédication et qu'il vit dans sa vie de chair. Malgré qu'il soit réduit à rien, il est un exemple de vie pour nous aujourd'hui.
Merci frère Rémi, on continuera à découvrir Maître Eckhart avec vous demain à partir de ce roman que vous avez écrit qui s'appelle Réduit à rien, les derniers jours de Maître Eckhart aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.